Ce matin, après ce temps de louange, je me disais, ça serait super si ce temps continuait encore pendant jusqu'à midi, et qu'on continue dans ce temps de louange. Moi, j'étais vraiment bien et heureux de me sentir près de Dieu. Et c'est pas toujours facile de reprendre derrière. Alors je vous propose de faire une lecture, c'est une lecture de circonstances. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est le texte du jour, parce qu'il n'y a pas un texte du jour, mais c'est le texte qui correspond à une date historique. Donc, si Pierrick, tu peux juste l'afficher. On va lire ce texte. Le jour de la Pentecôte, les disciples, étaient réunis tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Et on va avancer un tout petit peu, on dit d'où viennent toutes ces personnes. Et après, à la fin ici, on est en verset 12, « Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Nous sommes dans le temps de Pentecôte, et c'est ce texte qui nous parle dans la parole de Dieu du temps de Pentecôte. Mémoire d'un épisode chrétien, bien connu, que nous venons de lire, effusion donc, puisque c'est le mot qu'on emploie, effusion du Saint-Esprit, qui descend sur chacun de ses apôtres réunis, symbolisé par ces langues de feu au-dessus de leur tête, et par ce don particulier que l'Esprit leur a donné ce jour-là, vous l'avez vu, pour quelque chose de très spécial, pour annoncer l'Évangile dans différentes langues, parce qu'il y avait ce besoin ce jour-là. Étonnement de la plupart des gens, ben imaginez-vous être à l'étranger, et que tout d'un coup vous entendez quelqu'un prêcher dans votre langue comme ça, tout d'un coup, ça va vous surprendre, bien sûr. Constat de d'autres, ils ont bu. C'est-à-dire, ce qu'ils ont avalé a fait son effet. Ça se voit, pas la peine de chercher, on voit ce qui est rentré dedans d'eux. Ça, c'est un premier temps, un temps de Pentecôte. Mais nous vivons, nous, dans d'autres temps. Et j'aimerais prendre ce matin une comparaison entre ces trois temps, le temps de Pentecôte. Le deuxième temps, il est vraiment terre à terre pour nous. Il est plus local et plus temporaire. C'est notre temps d'élection dans lequel nous sommes. Alors, je ne vais pas faire de politique ce matin. Mais ce n'est pas fini. Non, j'entends c'est fini. Non, ce n'est pas fini. On est en plein dedans, au milieu entre les deux, là. Mais, vous dire les choses suivantes. Un candidat à l'élection doit se montrer sur ses meilleurs auspices, promettre tout et n'importe quoi, se vendre, donc, dans le seul but d'être élu. C'est la seule chose qui compte. Ainsi, si vous êtes un petit peu curieux, si vous regardez un petit peu, vous voyez fleurir de superbes affiches avec des têtes de premier de la classe. Des superbes têtes avec des super sourires. Et vous en avez dans tous les villages. Vous avez pu les voir déjà, vous pouvez encore en voir. Contraste aussi avec la même tête de la même personne le dimanche soir, vous savez, après l'élection. Vous savez tout de suite là qui a été élu ou qui a été battu, comme on dit. Déjà, les termes sont difficiles. Et puis enfin, un troisième temps, un temps plus général de l'époque dans laquelle nous vivons. Une époque où, force est de constater que, pour notre monde, toute l'importance est posée sur l'apparence physique. Ainsi, on voit fleurir partout toutes sortes de coaching, de relooking en tout genre. Coiffure, vêtements, comportements. J'ai vu un reportage sur un relooking pour chien. C'est dire, c'est l'importance. Un constat s'impose concernant ces trois temps. L'idée ou l'impression que l'on se fait d'une personne vient de ce qui ressort directement d'elle ou de ce qu'elle laisse apparaître de l'extérieur. On en a parlé ce matin déjà. Et cette opinion qu'on se fait de l'image qu'on voit de cette personne est bien souvent définitive, malheureusement. C'est-à-dire, on va classer, paf, c'est fini. Personne, elle a telle, elle est dans telle, on sait bien mettre des catalogues pour ça. Alors ce matin, j'ai envie de, avec vous, de me poser la question. Dans ces trois temps, moi qui me dis chrétien, disciple du Christ, moi qui me dis racheté et qui ai partagé, ou pas d'ailleurs, ce repas ce matin, parce que j'atteste que le Christ est mort pour moi, moi qui me dis ce témoin, quelle est l'image que je dégage? Quelle est l'image, l'impression que les gens vont garder de moi? Et plus profondément, en fait, qu'est-ce que je vis vraiment intérieurement? Peut-être là, ça fait un peu moins sourire. Peut-être on n'est plus dans l'image de l'affiche du candidat, déjà. Alors prenons ces trois temps. Le temps de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit en moi. En tant que disciple, je suis, c'est la parole qui l'affirme, je suis rempli du Saint-Esprit. Ok ? Ça vous motive pas, hein ? Je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit-il en moi de façon à ce que cela se remarque de l'extérieur ? Est-ce que, comme à Jérusalem, l'action de l'Esprit en moi provoque aussi l'étonnement autour de moi ? Est-ce que les gens sont frappés par ce que je fais ? Est-ce qu'on se rend compte que le don que j'exerce me vient de Dieu ? Est-ce que je le mets d'ailleurs tout simplement à son service ? Peut-on dire de moi, sans parler d'extrémisme, que je suis rempli de l'Esprit comme si j'étais rempli de vin doux ? Ça fait beaucoup de questions. Je ne vais pas apporter les réponses aujourd'hui à ces questions. Ces questions, on va les aborder à partir de dimanche prochain dans une série de cultes sur le Saint-Esprit, en détail. Donc ce point-là, on va le laisser de côté. Mais je vous invite à cette réflexion, vraiment. Quelle est l'image de ce qu'il y a au-dedans de moi, de la part de Dieu, de ce que j'ai reçu, qui ressort à l'extérieur? Et j'arrive à ce deuxième temps, le temps de l'élection. Avec cette question, est-ce que moi, je suis un bon candidat? Je ne parle pas de moi, hein. Alors si je viens comme ça, sur mon affiche, c'est pas terrible, si je viens comme ça sur mon affiche, je suis tout de suite un meilleur candidat, vous avez vu? Tout de suite, ça intéresse, ça interpelle. Suis-je un bon candidat? C'est-à-dire, en quelque sorte, quelle est la photo que je vais choisir pour mon affiche électorale à moi? Bien mis sur mon 31 avec un superbe sourire commercial, mais est-ce que cela va suffire pour être élu? Le visage, la tête qu'on fait, et donc le sourire, est quelque chose d'important pour la relation, la communication entre les personnes. Mais pas un sourire électoral, hein, pas un sourire commercial. Non, celui-là, on va l'appeler sourire de façade, simplement. Celui-là, il va justement cacher l'intérieur. Savez-vous combien de fois il y a le mot « sourire » dans la Bible ? Il y a une seule fois le mot « sourire » dans la Bible. Il y a une seule fois le verbe « sourire » employé. Alors je suis un petit peu frustré, parce que je voulais vraiment développer ce point-là. J'étais un petit peu frustré par rapport à ça. Une seule fois. Et en plus, quand j'ai cherché la référence, c'était dans le livre de Job. Ça, c'est pas de chance. Et justement, c'était très intéressant. Vous savez, Job était quelqu'un d'important, de riche, de très très riche, avant sa chute, d'encore plus riche après sa chute, chute provoquée volontairement par Dieu. Et Job, au chapitre 39 et verset 24, dans le livre de Job, on peut lire, et c'est vraiment très intéressant, c'est Job qui regarde les autres personnes et qui dit « Je leur souriais, ils n'osaient pas y croire et recueillaient avidement tout signe de ma faveur. » Rien que le sourire de Job, les gens étaient pantois devant, rien que son sourire. J'ai vraiment été déçu de trouver que ça sur le sourire. L'autre passage, c'est un passage qui n'entre pas du tout dans notre contexte. Mais j'ai compris pourquoi, en recadrant ce temps d'élection, ce temps où l'on choisit. On va trouver dans la Bible plus de 40 fois le mot « élu ». C'est dire si c'est important. Sans penser au verbe « élire hein, », mais juste le mot « élu ». Et là, on nous remet un petit peu à notre place. J'ai reçu cette semaine, vous l'avez peut-être reçu sur Internet, un prospectus chrétien, style affiche électorale, justement, avec une, pas une photo, mais un dessin sur le côté d'un personnage. Et c'était marqué en gros, ne votez pas pour lui, il est déjà élu. Est-ce que quelqu'un a reçu ce prospectus? Il faut dire que, c'était marqué en dessous, il faut dire qu'il n'avait pas un programme attrayant. Il demandait aux hommes de se repentir de leurs péchés, de renoncer à leurs intérêts, de pardonner, d'aimer leurs ennemis. Cela n'intéresse personne. Et le prospectus se concluait ainsi, Jésus n'a pas été élu par les hommes, il a été élu par Dieu. Luc 9, 35, il y eut une voix venant de la nuée, elle disait, celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu. Écoutez-le. Matthieu 12, 18, voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, qu'il m'a plu de choisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le droit aux nations. Ok, Dieu a élu le Christ. Ça, on le sait aussi. Mais ce qu'il y a de fabuleux, et ce que peut-être nous oublions souvent, c'est que nous aussi, nous avons été élus par le Christ. Nous sommes élus à l'unanimité, avec un seul bulletin. C'est quand même fort. Celui de Jésus-Christ. Est-ce que ça ne devrait pas déjà donner sur notre visage un sourire, mais un vrai sourire, pas un sourire au rabais, un vrai sourire. Un sourire qui vient de l'intérieur, parce qu'il vient de loin, de profond. Et cela ne s'arrête pas encore ici, dans l'élection. Dieu règne, ok, on en a parlé ce matin, on l'a chanté, Dieu règne. Le Christ élu règne à la droite de Dieu. Et voilà, Tipa, qu'il a besoin de nous comme ministre. Et qu'il va aussi nous élire comme ministre. Et la suite de notre verset, où il est dit, « Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. » Ça, c'est notre élection. La suite continue. « Pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à cette merveilleuse lumière. » Ainsi, sans être candidat, sans faire campagne, nous voici ministres. Est-ce qu'on est conscient de ça? Qu'on est ministre de Dieu? Mais Dieu va donc nous donner du travail. Dans un ministère, il y a du travail, en tout cas j'espère, sinon les ministres sont payés à rien faire. Mais dans ce ministère que Dieu va nous donner, il y a du travail. Il y a du travail pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage dans le ministère de Dieu. Et là, on va encore avoir un énorme sourire qui remonte d'encore plus profond, parce que non seulement nous sommes élus, mais nous sommes élus ministres de Dieu. 2 Corinthiens 3, 6, c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. Christ nous rend ministres d'une alliance nouvelle. Dieu à la fois nous élit ministres, mais nous donne aussi toutes les clés du ministère, les moyens d'exercer les ministères pour lesquels il nous a donné, il nous aura donné les dons nécessaires. Et vous connaissez ce passage d'Éphésiens. Éphésiens 4, verset 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Jésus-Christ, afin de mettre les saints, c'est-à-dire nous, en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Nous sommes ministres de la construction du corps du Christ. Tous avec les dons que Dieu nous donne. Il est évident à ce moment-là que le sourire qui va s'afficher sur notre bouche est avant tout un acte de reconnaissance complet de ce que Dieu a versé en nous, de ce que Dieu a rempli en nous, de cet esprit qui est venu et qui était symbolisé le jour de la Pentecôte, à ce moment-là, pour les disciples, par ces langues de feu. On l'a entendu dans une prière ce matin. 2 Corinthiens 5:18, tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère, encore une fois le ministère, de la réconciliation. Et Dieu donne aussi ce conseil. J'ai plutôt envie de dire, d'ailleurs, ce mode d'emploi qui devra nous permettre de nous rappeler d'où vient notre ministère, à quoi il sert et comment nous pouvons le remplir. C'est Paul qui s'adresse aux Colossiens qui dit « Veillez au ministère, veille au ministère que tu as reçu dans le Seigneur et tâche de bien l'accomplir. » Donc on a besoin de rester dans cette plénitude de l'esprit pour accomplir ce ministère. Alors la question qui se pose nous amène naturellement vers notre troisième temps, c'est-à-dire où est-ce que je mets l'importance? Qu'est-ce que je laisse voir à l'extérieur? Paul donnera à Timothée ce conseil précieux. Être sobre dans notre comportement et faire œuvre d'évangéliste. Voilà le conseil que Paul donnera à Timothée. Sois sobre et fais œuvre d'évangéliste. C'est-à-dire, sois un témoin par ta vie de tous les jours. Un chrétien simplement engagé dans la vie de l'Évangile. Une vie intérieure, une vie remplie de l'Esprit, qui va forcément se voir dehors. Le témoignage extérieur d'une telle vie est le premier et le meilleur moyen d'évangéliser, d'apporter, enlevons ce mot évangéliser peut-être, d'apporter simplement la bonne nouvelle du Christ ressuscité, mort et ressuscité. L'image que je montre ou qui transparaît de moi ne peut plus en tout cas alors être un sourire de façade, mais va refléter simplement l'image de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Souvenez-vous ce qu'a dit le Créateur, Genèse, on retourne au tout début de la Bible, Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Nous ressemblons à Dieu. Donc ce qui sort de nous doit, comme un miroir, nous rappeler ce qu'est Dieu et la gloire de Dieu et la bonté de Dieu. Quelle image de Dieu est-ce que je donne à mes concitoyens? C'est important. Est-ce que je donne cette image du Dieu père fouettard qu'on a trop souvent véhiculé aussi, de ce Dieu qui ne fait que punir, de ce Dieu avec un bâton? Ou est-ce que je donne l'image d'un Dieu bienveillant, d'un Dieu plein d'amour, d'un Dieu qui a envoyé son Fils et qui l'a donné pour chacun de nous? Est-ce que je donne l'image d'un Dieu qui va nous tenir en esclavage? Vous savez, avec cette image de l'épée de Damoclès qui va toujours nous tomber sur la tête pour nous couper la tête au moindre faux pas, est-ce que c'est l'image que je véhicule de Dieu? Ou au contraire, est-ce que mon voisin, mon collègue, celui que je vais croiser au supermarché, va voir en moi, il est l'image et la gloire de Dieu, comme le dit Paul aux Corinthiens, il est l'image et la gloire de Dieu. Vous avez bien entendu, c'est pas il doit être ou il sera l'image peut-être, non, c'est il est l'image et la gloire de Dieu. C'est un petit peu l'effet bifidus. Vous savez ce qu'il fait dedans? Se voit à l'extérieur. Cet esprit, ça fait un petit peu ça, un petit peu beaucoup. Ça doit faire ça complètement. Vivre, c'est laisser voir son cœur de l'extérieur, le partager et aussi multiplier et répandre l'amour de Dieu. C'est pour ça, c'est pour cela exactement que le Christ reprend sèchement les pharisiens et qu'il leur dit « Maintenant, vous les pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous nettoyez, que vous purifiez, mais votre intérieur est rempli de rapacité et de méchanceté. » Si les pharisiens avaient des affiches électorales à faire, ils sauraient les faire. Très bien, on voterait sûrement pour eux. Mais ce n'est pas ce que veut le Christ. Insensé, leur dit-il, est-ce que je ne suis pas celui qui fait aussi l'intérieur et l'extérieur? Vivre l'amour de Dieu, vivre de l'amour de Dieu. Et nous avons un passage sur l'amour que nous allons afficher, qui est important, et c'est ça la clé du royaume de Dieu. C'est vivre cet amour. Vous connaissez ce passage de Corinthiens ? Dieu établit dans l'Église, et on revient par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs, mais je vais vous montrer encore une voie par excellence. Et c'est ce que Dieu veut que nous gardions pour nous. C'est le verset suivant. Pierrick avait un problème pour passer d'un chapitre à l'autre. C'est le premier verset du chapitre d'après, Pierrick. Merci. Quand je parlerai les langues des hommes, c'est-à-dire si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est ici de la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, le bruit que j'ai va être très fort, va surprendre tout le monde, et puis en quelques secondes, va disparaître, et je disparais avec. Je n'ai pas plus d'importance. De l'amour au-dedans découle l'amour au-dehors. La vie avec l'Esprit de Dieu, au-dedans de soi, devient donc un véritable état d'esprit, ou même plutôt un état tout court, un état d'être, un état de vie. Et la Bible regorge alors de mots forts, et c'est là où j'ai été repris. En cherchant à travailler sur le mot « sourire », je me suis aperçu que c'était qu'extérieur, mais que la Bible regorgeait d'indications intérieures sur la façon dont il fallait être. Alors, il y a plein de mots, j'en ai choisi quelques-uns. Il y a le mot « heureux », 144 fois dans la Bible le mot « heureux », 144 fois. Et « heureux », ce n'est pas simplement les zygomatiques qui tirent un petit peu les lèvres comme ça, c'est être heureux de l'intérieur. 144 fois le mot heureux, beaucoup dans les psaumes, dans les béatitudes aussi. Un verset, Matthieu 24, 46. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, retrouvera en train de faire ce travail. Heureux le serviteur que le maître trouvera en train de faire le travail. Le mot bonheur, qu'est-ce que le monde cherche souvent ? Plus que le bonheur, 75 fois dans la Bible le mot bonheur. 75 fois. Et quand je dis 75 fois, il y a des livres dans lesquels vous n'allez pas le trouver. Des livres historiques dans lesquels on n'aura pas forcément ce mot parce qu'il ne traite pas de ce sujet. Ça veut dire qu'il y a des livres dans lesquels on va le trouver beaucoup plus. Un verset pour le bonheur. Acte 20, verset 35. Je vous laisse toujours montrer, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir de ces mots que le Seigneur lui-même a prononcés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toutes les indications pour notre vie, de ce qui peut nous rendre dans le chemin de Dieu. Joyeux, joyeux, 52 fois joyeux. Un cœur joyeux rend aimable le visage. Aimable. Vous savez ce que ça veut dire, aimable ? Qui donne l'envie d'être aimé. Aimable. Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que quand mon voisin me rend compte, il me trouve aimable ? Ça va au-delà du sourire. Un autre passage, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Tous des moyens pour y parvenir. Un autre passage pour le mot joyeux, que j'aime beaucoup. Soyez fiers de son saint nom et joyeux. Vous qui cherchez le Seigneur, soyez fiers de son saint nom. La fierté d'appartenir à Dieu doit nous rendre joyeux. Et puis ce passage connu, il y a beaucoup de chants sur ce verset, le psaume 19:8, « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent le cœur joyeux. » Il y a beaucoup de passages aussi où on va trouver le mot « réjoui » ou le mot d'ordre « réjouissez-vous ». Luc 6:23, « Réjouissez-vous, bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. » Ça c'est encore plus fort parce que c'est avoir au-dedans de soi la certitude que les promesses arrivent et qu'elles sont grandes. C'est la Bible qui le dit. Ces promesses sont grandes pour nous dans le ciel. Un autre passage qui doit aussi nous faire sauter au plafond de joie. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nos noms de ministres sont inscrits dans les cieux. Et ce n'est pas n'importe qui les a inscrits. Et le stylo est indélébile. Important. Des idées importantes à se rappeler.
Soyez joyeux, réjouissez-vous avec moi. C'est Paul qui envoie ça aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, en tout temps. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Et puis d'autres points plus profonds, hein, Pierre 4:13, dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ. Et ça, on peut le vivre dans la scène aussi. Réjouissez-vous afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Le bonheur, c'est ni plus ni moins le plan de Dieu pour l'homme. C'est ni plus ni moins ce que Dieu cherche pour que l'homme soit heureux, joyeux, et c'est ce qui va réjouir notre cœur, et c'est ce qui va aussi s'extérioriser avec un vrai sourire de plénitude dans notre vie. Voilà le premier ministère que Dieu confie à chacun de ses enfants. Être rempli de lui pour être réjoui, heureux et dans l'attente de son retour. Tout le reste, et tout, je ne vais pas les mettre au deuxième plan, mais tous ces dons qui sont donnés et sur lesquels peut-être on s'arrête peut-être trop des fois dans la parole de Dieu parce qu'on se stigmatise sur un, mais tous ces dons vont découler de cette plénitude qu'on a au-dedans de nous. Si on n'a pas cet esprit en dedans de nous, comment Dieu va pouvoir nous donner un don spécifique pour mettre au service de son Église? Dieu va donner des dons, ces dons, ils vont découler de notre attitude de foi, de notre foi intérieure. Il va donner des dons pour nous, personnellement, individuellement, un, deux, plusieurs, je ne sais pas. Et puis il va donner des dons aussi qui vont être pour l'Église, pour les frères et sœurs qu'il nous aura donnés dans la communauté. Mais il y a toujours derrière cette notion de service et de mettre ses dons au service de Dieu par son esprit. Alors, bon, on n'est pas dans le sujet, mais alors on va y venir dans ce qu'on va parler sur les dons et sur l'esprit, hein, à partir de la semaine prochaine. Sur les dons et les ministères. Mais je pense que dans l'Église, Dieu met aussi des personnes qui ont des dons pour discerner et nomme aussi des responsables qui ont aussi cette charge de la part de Dieu et qui sont reconnus par l'Église pour cela. Mais on développera cela dans les dons, dans le culte sur le Saint-Esprit. Merci de ta question, Jean-Michel. Pour conclure, j'aimerais vous laisser quelques versets, tout simples. Dans Colossiens, au chapitre 3, verset 12, nous trouvons. Et je vous invite à remettre ça, à le prendre pour vous, parce que c'est marqué « puisque vous êtes élus ». Puisque vous êtes élus. Alors prenons dans notre cœur que nous sommes élus. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez-vous donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Tiens, curieusement, c'est des choses qui apparaissent dans les dons, tous ces sentiments. Donc vous voyez, avant d'avoir ce don visible et notoire et reconnu, déjà les sentiments, ces sentiments doivent être au-dedans de nous. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc ces sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Et puis des choses qui nous plaisent moins, mais qui vont dans le même sens. Supportez-vous les uns les autres, c'est-à-dire acceptez-vous les uns les autres, vivez ensemble les uns les autres. Et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, apprenez à vous respecter et à vous comprendre. Pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi, et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Voilà le lien parfait que Dieu nous donne. Les promesses de Dieu ne sont jamais vaines, ne sont jamais électorales, puisqu'il a été déjà élu. Donc ça ne lui servira à rien. Par contre, elles sont justes, et elles se réalisent. Et j'aimerais vous laisser ces deux versets encore pour terminer, qui s'adressent à nous personnellement, individus, à nous en tant qu'individus dans un groupe d'individus, qui est ici la communauté de Presse-Saint, mais quelle que soit notre Église, qui est notre communauté. Nous sommes, de Corinthiens 6, les versets 16 et 18, nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je crois que ces phrases, c'est important de se les rappeler. 2 Corinthiens 6, 16 et 2 Corinthiens 6, 18, deux versets plus tard. Je serai pour vous. C'est une promesse de Dieu. C'est une certitude de Dieu. Une affirmation de Dieu. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce Seigneur même Tout-Puissant que nous avons loué et adoré tout à l'heure. Amen. Je vous invite à un petit temps de prière. Et si, de silence, de prière, et si un ou deux veulent prier à haute voix, qu'ils le fassent vraiment, vraiment librement, avec leur cœur. Seigneur, c'est vrai, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et ce petit chant continue en disant « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Seigneur, fais que nos maisons, mais d'abord notre cœur qui est ton temple, soit ta maison, vraiment. Et que nos maisons physiques, que nos églises soient aussi ta maison. Seigneur, qu'à l'extérieur on puisse aussi entendre nos cantiques, voir notre amour et partager cela pour ta grâce et pour l'avancement de ton règne. Nous te prions, Seigneur, pour chacune de nos églises, des églises que nous représentons. Nous te prions pour chacune des familles que nous représentons. Nous te prions pour chacun de nous. Seigneur, viens régner totalement en nous. Prends toute la place. Amen. J'aimerais partager avec vous les annonces concernant les activités de l'église. J'avais juste dans la boîte aux lettres ce matin ici une conférence justement sur la vie de l'esprit dans tous les domaines de notre vie. C'était une prophétie qui arrive là dans la boîte aux lettres là ce matin. Une conférence qui a lieu samedi. Il y a des papillons au fond, samedi au boucher, avec une conférence de Jacques Villegas. Certains d'entre nous connaissent Jacques Villegas qui a habité à Prèvesaint pendant très longtemps. D'ailleurs, il habite peut-être toujours à Prèvesaint. Donc, les papillons sont au fond. Je l'ai pris, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir peut-être y participer. Activité de l'église cette semaine. Mardi, étude biblique des aînés, 14h30 ici. Mercredi, la chorale. Jeudi, ici, réunion de prière. Samedi, il y a plusieurs choses dans l'ordre. Samedi, 10h, le club d'enfants. Il y a, des papillons au fond. Oui, papillons au fond pour le club d'enfants du samedi 2. 13h le groupe d'ados, 20h le groupe de jeunes, 20h30 le groupe de jeunes, dimanche café, thé, sous-sol, et dimanche 10h30 ici notre culte. Voilà pour les activités de cette semaine. Maintenant je vais avancer un tout petit peu pour vous donner deux infos pour la semaine d'après, c'est-à-dire le week-end du 9 et du 10. Pour le week-end du 9 et du 10, le samedi matin 9, on vous invite vraiment, c'est une invitation précise, à une séance de travail ici. Travaux d'intérêt général, on va dire, travail de printemps, il y a du bricolage à faire un peu autour du bâtiment, dans le bâtiment, c'est vraiment important. Philippe, est-ce qu'il faut s'annoncer ? C'est toujours mieux de s'annoncer, comme ça on sait aussi ce qu'on peut entreprendre, éventuellement acheter les choses. Et si vous voyez quelque chose qui ne va pas, une lampe, une porte qui coince, quelque chose qui ne va pas, vous le dites à Philippe, on ne voit pas tout non plus, mais c'est important qu'on puisse aussi réparer ce qui a besoin d'être réparé. Donc je vous invite, c'est samedi 9, prenez le temps de 8h30 jusqu'à midi pour venir aussi partager ce moment sympa de bricoler dans notre église pour garder en ordre la maison de Dieu. Ça se voit aussi de l'extérieur quand c'est tenu en ordre aussi. Merci Charlie pour tondre régulièrement et couper les branches. Dimanche 10, le lendemain donc, on aura, vous le savez, mais je vous le rappelle, une réunion de membres l'après-midi à 14h, et avec deux sujets précis, l'organisation de l'Église, donc la réflexion des anciens sur l'organisation de l'Église, et puis l'avancement de la commission travaux sur la mise aux normes et l'évolution du bâtiment ici. C'est important, il y aura une garderie, c'est important que vous preniez du temps, que vous gardiez ces deux heures et demie pour ce dimanche après-midi, pour le partager aussi ensemble. Voilà. Et puis on aura, vous le savez, on a un grand projet pour cet été, avec un club d'enfants, et je vais laisser Emmanuel qui va venir nous donner les infos nécessaires pour ce grand panneau qui est affiché au fond.
Juste pour le ça c'est autre chose. Le club samedi, on a le club, et on comme c'est le dernier de l'année, on fait toujours un moment récréatif à la fin où on invite les parents. Donc on a besoin de salades et de desserts. Il y a un tableau au fond, vous pouvez vous inscrire, ou si vous avez besoin d'enseignement, vous demandez soit à Rebecca, soit à Florence qui gère ça. Voilà. Maintenant, on passe à quelque chose de complètement différent. Vous avez eu la théorie ce matin, maintenant on vous invite à la pratique. Alors, nous allons, comme vous le savez, du 13 au 17 août, il va y avoir le club d'enfants, mais d'été, pendant une semaine. C'est un club à la journée pour les enfants de 7 à 12 ans, de 8h30 du matin jusqu'à 17h le soir. On a un objectif, c'est de remplir l'église d'enfants. On s'est fixé un nombre, on n'ira pas au-delà parce qu'après on ne peut pas au niveau des infrastructures. Par contre, pour pouvoir faire ce camp, on a besoin de tous les ministres. Comme vous êtes des ministres, on a besoin de gens expérimentés, ça tombe très bien. Au fond, on a fait un grand panneau. Sur ce grand panneau, c'est très très important pour nous que vous vous notiez. Certaines personnes doivent se dire « Oh, je suis trop vieux, je peux rien faire, c'est pas pour moi ». C'est faux. La première colonne, on a besoin d'intercesseurs. Ça peut être des personnes âgées qui peuvent plus se déplacer. Vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse email si vous en avez une, ou votre numéro de téléphone. Et pendant la semaine, vous serez tenu au courant de ce qui se passera. Et on a besoin de vos prières pour ce club, pour les enfants, pour la sécurité. On vous fera une petite liste peut-être de sujets de prière.
Les jeunes peuvent aussi prier.
Mais les jeunes, on a aussi d'autres tâches pour eux. Après, on aura besoin de moniteurs et d'aides-moniteurs. Pour les moniteurs, c'est des gens qui ont plus que 18 ans, qui sont engagés dans la foi. C'est très important. Chaque moniteur aura un aide-moniteur. L'aide-moniteur, c'est un jeune qui a plus de 15 ans. Après, nous aurons besoin... Donc, ces gens-là doivent s'engager pour toute la semaine, parce que le groupe aura toujours le même moniteur. Donc, ça, c'est un peu le gros morceau, mais c'est très, très important. Les gens qui s'engagent comme moniteurs, ils ne peuvent pas venir me dire « Ah, j'ai oublié, j'ai un rendez-vous chez le dentiste » ou je ne sais pas quoi. C'est un engagement pour toute cette semaine. Après, on a plein d'autres tâches où là, on a besoin de vous, mais on peut avoir besoin de vous à certains moments précis, et c'est beaucoup plus, je dirais, libre. Par exemple, on a des ateliers bricolage. Ces ateliers bricolage, ils ont lieu uniquement l'après-midi. Donc, les gens qui veulent s'engager au bricolage peuvent s'engager soit pour toute la semaine, soit dire « Ah ben moi, ça m'intéresse, mais que le mardi après-midi ». Donc, vous marquez « le mardi après-midi ». Et après, on compte sur vous. Il y a un atelier, ça sera le matin, c'est l'enseignement des enfants, donc là aussi, bien évidemment, des gens engagés. On aura un support, qu'on va faire un suivi durant la semaine. L'enseignement dure à peu près 30 minutes, et là, des gens peuvent dire, voilà, moi, ça m'intéresse, l'enseignement, et ça vous prend un petit peu plus de 30 minutes. Il y aura un groupe qui fait quiz et jeux. C'est des gens qui doivent organiser le matin un petit quiz, pas forcément sur la Bible. Ça peut être un quiz sur de la nature, sur des questions, des trucs rigolos pour les enfants. Qu'est-ce que j'oublie ? On aura besoin de gens pour le nettoyage, parce que comme on aura peut-être, je ne sais pas, une centaine de personnes, si Dieu le veut, on aura besoin de gens pour venir nous aider à nettoyer les sanitaires, vous imaginez avec tous ces enfants. On a une case collation goûter. Le matin, on va leur donner une petite collation. L'après-midi, on va leur donner un goûter. À midi, ils prennent leur, leur pique-nique. Donc, on aura besoin de gens pour organiser ça. Qu'est-ce que j'oublie ? Il nous faut des arbitres pour le sport. Donc, ça, c'est que l'après-midi. Mais les arbitres, c'est pareil. Quand ils s'engagent, ben voilà, c'est pour l'après-midi. Donc, la journée, elle va, je vous dis juste une journée type. Les enfants arrivent le matin, ils jouent un peu ensemble. Il y aura un moment de louange. Après la louange, il y aura l'enseignement qui dure à peu près une demi-heure. Après l'enseignement, ils vont par groupe, ils ont un moment de partage. Après, il y aura de nouveau des jeux. Et puis l'après-midi, c'est vraiment sport, bricolage et grand jeu. Et ils tournent autour de tout ça. Donc c'est un super projet, mais on a besoin de vous parce que si on a 50 enfants et qu'on a 5 personnes pour s'encadrer, pour encadrer, bah, malheureusement, on pourra pas le faire. Donc, on compte sur vous tous. Vous avez tous des dons différents les uns des autres. Et inscrivez-vous bien. Voilà. Il y aura des super papillons que Pierrick a fait pour les enfants. Si vous connaissez des enfants qui ont de 7 à 12 ans, on en aura assez. On en a fait tout un paquet. Donc, donnez-leur. Par contre, après, comme on a limité au nombre d'enfants, premier venu, premier servi. Voilà.
Merci.
Si je n'ai pas été assez précis,
il fallait lui demander. Hein. Voilà. Je vous invite à vous lever. Et en pensant ce matin à cette joie, à ce bonheur, j'ai pensé aussi que ce n'est pas facile quand on a des soucis, quand on a des problèmes, quand on n'est pas bien, d'entendre parler de la joie et du bonheur. Et puis, je crois que Dieu fait bien les choses. Et ce matin, je prends un petit livre où il y a des pensées pour tous les jours. Et je l'ouvre à au jour d'aujourd'hui. Et je lis ceci. 27 mai. Tout le monde, tous les matins, retrouve ses problèmes. Santé, sentiments, profession, augmentation, solitude, vieillissement, diminution. La vie n'est pas toujours facile, le cœur est déjà lourd et le poids du monde nous écrase encore les épaules. Crise économique, tension internationale, jeûne éternel de ceux qui ne déjeunent jamais. Mais savez-vous pourquoi, malgré tout, les gens arrivent encore à vivre ? C'est parce qu'ils ont une femme qui leur fait signe à la fenêtre, un enfant qui chante dans sa chambre, un voisin qui leur crie un mot gentil, un collègue qui leur donne un coup de main et dimanche une réunion de famille pour un anniversaire de mariage. Jésus disait que donner un verre d'eau à quelqu'un change déjà le monde. Et les cœurs lourds, un rien d'amour peut les rendre légers. Et le passage, le petit verset qui était donné sur cette réunion sur le Saint-Esprit, c'était « La promesse est pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous puissiez garder cette promesse au fond de votre cœur. Amen. »